Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dieu peut-il guérir? C'est la question que nous nous sommes posée ensemble au long de ce carême 2019. Une question importante, s'il en est, tant les Français, parfois même les croyants, ont l'impression que Dieu n'agit pas. Comme si les récits des évangiles et des miracles de Jésus étaient révolus, réservés au temps de son passage sur terre. Alors, s'il existe, Dieu peut-il guérir? Et si oui, comment s'y prend-il? Et comment être l'un de ses heureux bénéficiaires? Dieu peut-il guérir? Cinquième émission, dernière émission de notre série de carême en ce lundi de la Semaine Sainte. Nous sommes toujours avec Daniel Desbois, qui est notre grand témoin de cette année, psychologue, cofondateur des Agapé, retraite de guérison intérieure du Puy-en-Velay. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Comme pour chaque émission, on commence par, à faire un peu un récapitulatif de façon à emmener avec nous ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes, pardon, pour ceux qui ont été très attentifs. Mais éduquer, c'est rabâcher, il paraît. Alors on se dit que comme le sujet est très nouveau et que certainement nous sommes nombreux à être éduqués sur ce sujet par vous, il est bon de revenir en arrière. Avant tout, j'avais une question pour faire écho à mon introduction. Nombre de croyants, on va garder les croyants et pas les Français, ont parfois l'impression que les récits des évangiles et le temps du passage de Jésus sur terre était un temps extraordinaire, où Dieu, par Jésus, donc agissait, guérissait, et qu'aujourd'hui, Dieu serait plus absent et guérirait moins. Quelle est votre conviction sur le sujet?
La question que je me poserai, c'est est-ce que c'est Dieu qui est absent ou est-ce que c'est l'homme qui est absent? Je crois que si on fait appel... Évidemment, si on fait appel à Dieu, on va avoir une rencontre qui va potentiellement se faire. Mais on est tous autant boiteux les uns que les autres, des aveugles, il y en a plein. On est des aveugles de conscience aussi, hein. Il n'y a pas que des aveugles physiques. On a les mêmes besoins, les mêmes souffrances, les mêmes obstacles sur notre chemin de vie. Et évidemment, quand on est dans la souffrance, c'est là, en fin de compte, qu'il y a le passage. La plupart du temps, les grandes questions que se posent les gens par rapport à Dieu, c'est au moment où ils souffrent. Et particulièrement au moment où ils souffrent le plus. Parce que là, ils sont dépouillés de leur défense, de leur certitude, de leur vérité, et ils se posent des questions qu'ils ne se sont jamais posées. Et c'est le moment où l'intelligence, la conscience va être suffisamment éveillée pour avoir l'humilité de penser que peut-être Dieu existe. Si on a une voix de la conscience qui est là, chez beaucoup de personnes, la voix de la conscience est éteinte. Elle est toujours potentiellement là, mais elle est éteinte parce qu'on ne fait pas appel à elle. Dieu nous parle toujours par la conscience, puisqu'on est fait pour le bien. Il nous parle toujours, mais quand la conscience est obscurcie, je n'ai plus accès ni à Dieu, ni à la vérité. Et là, ça devient difficile. Donc les passages par la souffrance et dans les épreuves sont des ouvertures, c'est la porte du ciel qui peut s'ouvrir.
Si Dieu donc est présent et que c'est l'homme qui est absent, qu'est-ce que vous auriez comme exemple? Est-ce que vous auriez un exemple qui pourrait nous aider au début de cette émission et en cette fin de série, de cette grande série de carême, à nous persuader que Dieu peut toujours agir?
Oui, j'ai un exemple. Je vais vous donner l'exemple d'un de mes enfants. Au cours des entretiens que nous avons eus, des émissions, j'ai parlé de notre conversion familiale. Donc, mon épouse avait 46 ans et moi 47 ans. Et j'ai un de mes enfants, le second. Le second, à une époque, donc, avant que l'on soit, que le Seigneur vienne nous rejoindre, parce qu'on était vraiment, vraiment loin de l'église. Avant qu'il nous rejoigne, un de nos enfants fréquentait des milieux de, voilà, il a touché à la drogue. Et c'est un enfant qui, s'il a touché à la drogue, c'est que certainement il n'a pas été entendu à une certaine époque quand il était jeune. Et effectivement, ce qu'il y a eu de merveilleux donc chez lui, donc très loin de l'église, lui aussi particulièrement, le jour où il y a eu une conversion, parce que Dieu est venu nous visiter les uns après les autres dans la famille en l'espace de 6 mois, mais de manière forte et radicale. Quand il a visité notre enfant, le second Ludovic, quand il l'a visité, C'est lui qui nous a raconté cela. Il nous disait, tu sais, papa et maman, quand j'avais 6-7 ans, j'étais tellement mal, tellement angoissé que je priais Dieu. Mais Dieu ne m'a jamais répondu. Ah. Et il dit, quand il est au bout d'un certain temps, que j'en avais marre de prier Dieu parce qu'il ne répondait pas, j'ai prié le Père Noël. Mais le Père Noël, il m'a jamais répondu. Peut-être que le Père Noël, c'était papa d'ailleurs. Le Père Noël ne m'a jamais répondu parce que papa, il était occupé. J'étais en pleine reconversion professionnelle à l'époque. Et j'étais un petit peu partout en France pour apprendre ce que j'avais à apprendre, justement au niveau de la psychologie, parce que c'était mon second métier. Et il me dit, tu sais papa, j'ai tellement pleuré le soir, vous vous en rendiez pas compte. Eh bien, quand j'ai eu la visite du Seigneur, il me disait, c'est Jésus qui me parlait, et il me disait, tu vois Ludovic, quand tu priais à ce moment-là, j'étais avec toi. Et il a passé toutes les blessures, quand tu priais à ce moment-là, j'étais avec toi. Et il me dit, papa, maman, il a passé toutes les blessures que j'ai pu vivre, et toutes les réponses que j'attendais, eh bien, elles sont arrivées 15 ans après. Je trouve ça, ou 10 ans après, je trouve ça absolument fabuleux de voir comment le Seigneur entend, mais quand ça n'est pas le moment, eh bien, on pense qu'il n'est pas là. Mais le Seigneur était là. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment un guerrier du Christ, là, aujourd'hui.
Extraordinaire histoire, hein. Et puis aussi quelle délicatesse de Dieu de vous donner le premier fruit de vos retraites, enfin de ce parcours de guérison intérieure par votre fils avant même que vous ayez lancé toute formule qui puisse exister. Hein.
Magnifique.
Alors si on essaye de refaire un tout petit peu de pédagogie dans cette première partie, si on vous a bien suivi, j'espère que c'est le cas, chacun de nous vivrait comme une forme d'esclavage, donc on remonte très loin, hein, on va dire là on est en Égypte, c'était l'objet des premières émissions, le tout est de se rendre compte, de relever la tête et d'entendre donc Dieu nous appeler au désert. Première étape, étape de consolation. Voilà, Dieu commence par se manifester, par consoler son peuple et donc la personne qui irait au désert. Et au cœur du désert, on découvre donc ces fameuses blessures d'identité, de communion, de participation dont on a parlé, inspirées donc de Jean-Paul II et corroborées par d'autres. Et au cœur du désert, on découvre donc nos chemins de survie. Ouais. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Chemin de survie, péchés capitaux, péchés secondaires, dans cette première partie, pour voir en fait ce qui se joue et comment on rentre en terre promise. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quelques mots ces chemins de survie ? Moi, ce que j'en ai compris, c'est que à chaque fois que l'on est blessé, on trouve en fait une forme de riposte intérieure qui n'est qu'humaine, et le tout est d'arriver à démasquer cette riposte.
Voilà, c'est ça. Le chemin de survie, en fait, c'est une stratégie de récupération de l'amour. C'est-à-dire l'enfant, lui, attend l'amour, et quand l'amour ne vient pas du fait que ben, papa et maman, ils sont limités, ils sont en difficulté, ils sont ce qu'ils sont. Quoi qu'il en soit, ils ne peuvent pas répondre totalement à l'amour qu'attend l'enfant. Et selon les manques d'amour que l'enfant va donc subir, en fait, l'enfant va réagir à sa manière. Et il va tout faire pour récupérer cet amour qui ne lui a pas été attribué par des stratégies qui lui sont propres. Ce sont ces stratégies que nous appelons chemin de survie, pour récupérer cet amour, sachant que dans son innocence blessée, lui, il a subi le manque d'amour. Mais ce qui se passe, c'est qu'à mesure qu'il va grandir, il va avoir 10 ans, 12 ans, 14, il passe l'adolescence, il devient jeune adulte, on peut avoir 50 ans, et continuer à fonctionner aujourd'hui avec le même schéma que l'enfant a posé sur les croyances de base, les décisions qu'il a prises tout petit. Et autant c'était sur l'innocence blessée une attitude qui était normale, il faisait ce qu'il pouvait, c'était la meilleure façon pour lui de s'adapter au contexte qui lui était donné. Mais quand il continue à grandir sur ces mêmes stratégies de récupération de l'amour, sur les mêmes chemins de survie, à ce moment-là, il est en difficulté parce que il va être pénalisant non seulement pour lui, il s'empêche de vivre sa vie, il vit son histoire encore. C'est encore pénalisant pour lui et pour les autres. Donc vous voyez, il est fondamental de savoir que sur ces blessures, il va y avoir le péché qui va venir se greffer. Parce que quand je suis blessé, le lieu de la blessure va être le lit du péché. Parce que je vais automatiquement, s'il va réagir, ça va être pour récupérer, mais aussi ça peut être contre papa et contre maman, c'est-à-dire contre l'amour. Dans la mesure où l'enfant va avoir une altération de ce qu'est effectivement l'amour, il va commencer à rentrer dans le péché malgré lui, dans son innocence. C'est ça qu'il faut voir. Dans son innocence, il va commencer à mettre en place un certain péché. Parce que le péché, ça va être ce qui me sépare de Dieu.
Alors, est-ce que vous pouvez prendre un exemple? Vous en avez pris beaucoup au long de cette émission. Faut-il vous relancer sur l'exemple de votre fils? Vous avez eu la générosité aussi de parler de, à la première personne. Qu'est-ce qui vous viendrait en tête, là, pour...
Je peux vous parler, là, parce que là, c'est assez frais. Là, c'est un jeune homme de 28 ans qui a vécu tous les excès. C'est-à-dire l'alcool, la drogue, le sexe. Et quand il est arrivé, il me dit, j'ai peur de la vie. En fait, il me dit, j'ai peur de la vie. C'est un gars qui a pris des risques énormes. On pourrait dire, bon, il est fort des risques qu'il a pris. Non, pas du tout. Et en fait, je lui demande qu'est-ce qui lui fait peur. Et il me dit, j'ai peur de l'échéance. Ah bon, mais de quelle échéance vous parlez? Et il me dit, j'ai toujours pensé que je ne dépasserai pas la barre de 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et je ne dépasserai pas la barre de 30 ans parce que j'ai une vie tellement de cauchemars que je me disais, bon, à 30 ans, t'es mort. Il a 28 ans. Et là, la peur a commencé à prendre le pas, alors que c'était un loubard quand même. Il était, voilà, il savait se défendre. Hein. Mais petit à petit, l'angoisse de ses 30 ans est arrivée. Et il m'a dit, maintenant, je suis vraiment rongé par la peur, parce que je lui ai demandé, mais est-ce que cette peur, il y a longtemps que vous la connaissiez, que vous la viviez? Il me disait, oh là là, je l'ai vécue depuis très longtemps, cette peur, mais elle était masquée. Et je lui demandais quelle était la source de sa peur. Et il me disait, papa était un alcoolique qui rentrait tard le soir, il criait, et puis il battait maman. Et moi j'étais terré dans mon lit, je me cachais le plus possible, et évidemment la peur a commencé à s'inscrire dans son cœur. Il me dit, j'ai toujours connu le mal et l'horreur. Et il me dit, à mesure que j'ai grandi, quand j'étais adolescent, j'ai choisi le diable même. J'ai dit, avec lui peut-être que je vais pouvoir m'en sortir. Mais évidemment, bon, il s'en est pas sorti, puisqu'il est rentré dans un gouffre d'angoisse de plus en plus grande, qu'il a tempéré par l'alcool, par la drogue, etc., le sexe, etc. Et il me dit en pleurant, il me dit, j'en ai marre. Aujourd'hui, j'en ai marre. Je veux me sortir de là.
Alors, quel était son mécanisme de survie? Et en l'occurrence, le péché, on va dire, capital et secondaire, puisque c'est ce qu'on revisite.
Alors voilà, le péché capital pour lui, ça a été l'excès. C'est-à-dire vraiment l'excès, la luxure, c'était tout ce qui pouvait être, tout ce qui pouvait masquer la souffrance. Lui, l'important, c'était de ne plus sentir la souffrance. Donc lui, en fin de compte, le péché capital, ça a été l'excès. Le péché secondaire, mais qui en fin de compte était marqué depuis très longtemps, c'était la peur. C'est-à-dire la peur de quoi? La peur de la vie. On va dire, mais la peur, c'est pas un péché. Oui, mais la peur de la vie, c'est un péché. La peur de la vie, c'est un péché parce que, en fin de compte, tout le travail qui a été fait, en fin de compte, ça a été de le ramener petit à petit vers le bon Dieu, quoi. Parce que je lui ai demandé à un moment, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose pour vous? Il me dit, il est tellement loin de moi, mais maintenant je souffre tellement que je crois que je pourrais avoir accès à lui. Je lui ai demandé s'il était baptisé, il me dit oui. Est-ce que vous auriez la foi, là, maintenant que vous êtes en souffrance, est-ce que vous auriez la foi? Il me dit oui. Je suis sûr que je peux aller vers lui, je crois en Jésus. Mais ça a été absolument magnifique, parce qu'il a fait un bond absolument extraordinaire, et les vertus adaptées justement à ces deux péchés, son péché capital qui était donc l'excès, la vertu adaptée, c'était la tempérance, l'amener à être dans une démarche juste au jour le jour, ne plus faire ses excès, mais être dans une pondération. C'est ça qui l'a délivré. Petit à petit, il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il faisait un choix, il faisait toujours le choix excessif. Il allait dire stop maintenant. Et la vertu adaptée à la peur de la vie, ça a été rentrer dans la confiance en Dieu. Et c'est l'expérience de Dieu, par la prière, mais on aura l'occasion d'en reparler, l'expérience de Dieu qui a réchauffé son cœur et qui lui a confirmé que la vie était belle.
Puisque si l'on continue donc ce parcours, donc chemin de survie, péché capitaux, péché secondaire, pratique des vertus humaines, juste sur ce sujet, c'est vrai qu'on peut sortir de cette série d'émissions en se sentant un petit peu démuni, parce qu'on n'a pas forcément, on va dire, toute la table de multiplication des vertus à poser en face des péchés capitaux et secondaires. Si on se sent un peu démuni à la fin de cette série, on se dit, bon, voilà, j'ai pris le temps un peu de prier, moi j'ai découvert qu'il y avait ci ou ça, mais je vois pas trop quelle vertu humaine je pourrais apposer à cette difficulté. On n'a pas le choix, il faut aller faire une agapé, ou qu'est-ce que vous conseilleriez aux auditeurs?
Ben évidemment, l'agapé, c'est quelque chose qui est absolument formidable. Là, je peux vous dire qu'il y a des merveilles qui se passent. Vraiment, Dieu vient visiter, vient déloger tout ce qui est à déloger, vient faire des miracles. Hein, et... Mais je vais quand même, pour les personnes, qui, parce que tout le monde ne peut pas faire une agapé, je vais donner quand même une
petite... Tout le monde ne peut pas se déplacer,
entre autres. Tout le monde ne peut pas se déplacer. Je vais quand même donner, pour déloger justement péché capital et vertu dans le chemin de survie. Ce qui nous intéresse, c'est de découvrir le chemin de survie. Alors, simplement, je vous dis, vous vous posez la question. Donc là, je m'adresse aux auditeurs. Vous vous posez la question, vous dites, enfant, comment et par qui j'ai été blessé? Donc, enfant, comment, par qui j'ai été blessé? Ce qui nous intéresse, c'est la réaction. C'est-à-dire, vous vous posez la question, mais comment as-tu réagi sur cette blessure-là? Et par rapport à cette personne qui t'a blessé, comment as-tu réagi? Et là, il va se dérouler, justement, des comportements. Peut-être une décision que l'enfant a prise. Peut-être une croyance sur lui, sur la vie, sur papa, sur maman, les adultes. Donc, première question, comment as-tu blessé? Comment as-tu réagi? Deuxième question. Et là, vous posez la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, il te semble que tu continues encore à fonctionner sur les mêmes réactions que tu as pu avoir enfant? C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que autant le mal a été subi à une époque, mais aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a plus, à le subir. Et là, la personne va rentrer, là je vous invite à rentrer dans le détail de cette manière de fonctionner de l'époque qui est encore actualisée. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a, dans ma manière de fonctionner, il y a un point capital qui va être mon péché, qui va me faire dire, quand tu es là-dedans, que tu réagis comme cela, c'est la réaction hein, sur la blessure, quand tu réagis comme cela, ton péché à toi c'est cela. Ça peut être le mensonge, ça peut être la jalousie, ça peut être la colère, ton péché à toi capital c'est ça. Quelle va être la vertu adaptée? Là c'est, quand c'est la colère, ça va être demander une grâce de douceur, une grâce de compassion. Quand ça va être de la jalousie et l'envie, ça va être de demander, parce que quand on est dans la jalousie, on a l'humeur qui monte en positif, en négatif, c'est très variable. Demander une égalité d'humeur. Quand je suis dans la vanité, dans le mensonge, demander une grâce de vérité, vous voyez, c'est le pendant. Et c'est cela qui est absolument fondamental, de découvrir mon chemin de survie sur la blessure. J'ai réagi, j'ai mon chemin de survie, et dans mon chemin de survie, j'ai le péché capital et la vertu qui va venir justement diluer le péché.
On fait une première pause et puis on vous retrouve tout de suite après pour donc aborder le sujet de ce jour. C'est l'entrée en terre promise, après avoir été au désert et donc promis cette terre promise. On a pu entrevoir que c'était le fruit, de, comme vous avez raconté dans ce magnifique exemple de ce jeune homme, le fruit donc d'un acte de foi et de pratique de vertu humaine et théologale. On vous retrouve après pour expliquer ça comme il faut.
C'était deux qui se cherchaient d'amour, la nuit, le jour. Lui le tout grand, le trois, moi le pauvre, le tout petit, les trois. Jamais je ne l'aurais cherché si lui d'avance, il ne m'avait trouvé. Si lui ne m'avait fait sentir ici dedans que moi je suis aimée. Celui dont je sais bien dedans qu'il m'aime, voilà celui que je cherche d'amour. La nuit, le jour. Trouve et retrouve toujours, oui, l'amour me fait comme lui-même, aimant de sang verser tout ce qu'il aime.
Emmanuel Pella.
Dieu peut-il guérir ? C'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, cinquième émission de cette grande série de carême, avec Daniel Desbois, psychologue cofondateur des Agapés, retraites donc de guérison intérieure, qui ont lieu au Puy-en-Velay. Dans cette deuxième partie d'émission, on va donc essayer de creuser ce qui se joue juste avant l'entrée en terre promise, ou plus précisément pour rester en terre promise, puisque une de vos convictions et de ceux donc qui ont participé à la fondation de ces agapés et qui ont accompagné ces agapés, vous le disiez je crois lors de la première émission, il me semble que vous l'avez répété plusieurs fois, c'est que Dieu nous appelle tous en terre promise. La terre promise c'est évidemment une image, et qu'on peut y aller plus ou moins rapidement selon le temps que l'on met à, on va dire, à lâcher en fait, hein, et à faire confiance, à s'abandonner en Dieu. Le sous-titre de cette partie, entrer en terre promise, c'est entrer dans la confiance. La confiance c'est vraiment le mot clé, c'est-à-dire il faut à un moment s'abandonner, s'abandonner en Dieu, c'est ça, oui, Daniel Desbois?
Oui, tout à fait, c'est s'abandonner en Dieu. Et vous savez, si on tourne dans le désert, c'est justement parce qu'on n'est pas encore prêt à passer en terre promise, parce qu'on est encore dans nos chutes et dans nos rechutes, parce qu'on a encore le doute, l'amour, et puis c'est toute l'éducation spirituelle. Je vais rencontrer les prêtres qui vont, avec leurs exhortations, qui vont m'apprendre petit à petit ce que c'est que de vivre en Dieu. Mais je découvre cela petit à petit avec le temps. Mais une fois que je pratique, je commence à pratiquer de plus en plus ce que j'aime, mon Seigneur, et que je vais passer en terre promise, c'est le lieu du baptême, donc le Jourdain, je passe le Jourdain, le Christ est venu pour me donner justement la vie éternelle. Mais quand je passe en terre promise, il est évident que je suis pas un saint. Le saint, lui, reste en terre promise. Moi, je suis dans mes limites, je suis en terre promise, je lutte par mes vertus, les vertus que je mets en application pour lutter contre le péché qui entrave ma vie spirituelle. Je suis quand même limité de temps en temps par des chutes, même si je suis en terre promise. Ce qui veut dire que l'arme principale, ça va être la prière.
Ah, j'allais y venir, c'est-à-dire la manière de, parce qu'on peut choisir de faire confiance à Dieu dans un moment de grâce ou de détresse,
oui.
Mais là peut-être la meilleure manière d'installer cette confiance, c'est de prendre l'habitude de la prière. Expliquez-nous ça.
Voilà, c'est-à-dire que la prière c'est une vocation surnaturelle. L'homme est fait pour ça. Il est venu sur terre pour préparer son ciel. Il est venu sur terre pour commencer la vie éternelle. Alors ça paraît énorme de dire ça, mais en fait, oui, mais tu vas commencer tout à fait simplement et humblement à pratiquer cette prière au quotidien. C'est pour ça que j'insiste sur l'impératif de la prière, mais parce que c'est par la prière, et on va voir que c'est par les vertus théologales qui nous sont données, par la foi, que je vais pouvoir entrer dans l'intimité du cœur et dans le mystère de Dieu, dans ce cœur à cœur avec Dieu, et qui va me rassurer en fait. Cette expérience de la prière est absolument fondamentale, parce que si je vais faire cet exercice de prière sur terre, parce que quand je vais aller au ciel, si j'ai pas pratiqué la prière, le bon Dieu va me dire, mais en fin de compte, si tu n'as pas exercé sur terre, je t'ai donné les talents, je t'ai donné tout ce qu'il fallait par les vertus, la grâce qui est à l'intérieur de ton âme, je t'ai donné ce qu'il fallait pour que tu viennes vers moi. Qu'en as-tu fait? Si j'ai pas pratiqué la prière, il est évident qu'il va me dire, mais en fin de compte, tu as enterré tes talents. Tu as enterré tes talents. C'est un Dieu de miséricorde, hein, certes, c'est sûr, mais cela veut dire que je suis passé un petit peu à côté de ce que le Seigneur attendait, et à côté de ma vocation fondamentale qui est la prière. Et beaucoup de personnes me disent, mais en fait,
Et la prière, vous tenez à préciser, vous l'avez dit plusieurs fois dans cette émission, c'est pas penser à Dieu de temps en temps, c'est pas aller à la messe le dimanche, c'est cultiver un moment d'intimité personnelle avec Dieu, et ce tous les jours.
Et c'est cela, tous les jours. Je sais que beaucoup de personnes disent...
On peut pas guérir et rentrer en terre promise et faire le parcours que vous nous avez décrit au long de ces cinq émissions si dans le fond on prie pas?
Non, si on ne prie pas, on est en danger. Il faut bien se dire que... Quand je suis en terre promise, c'est là que le combat spirituel, on en parlera tout à l'heure, c'est là que le combat spirituel va se préparer. Parce qu'il y en a un qui ne va pas me lâcher. Hein. Tant que je suis dans les travers de mon chemin de survie, dans mon péché capital, tout ça, que je me ligote tout seul, il n'a pas besoin, le malin n'a pas besoin de me ligoter. Par contre, quand je suis libéré, délivré, que je suis accroché au bon Dieu, que je suis en terre promise, là il va pointer le museau. Et c'est là qu'il va commencer à me titiller. Si je ne fais pas... dans ma pratique, dans mon désir de cheminer spirituellement, particulièrement l'oraison, l'adoration, les sacrements de réconciliation, les messes, etc. Si je n'ai pas toute cette armée d'outils, de moyens et donc de vie que le Seigneur me donne, je me mets nécessairement en danger. Et l'oraison, c'est une pratique qui est fondamentale, parce que c'est là que je vais goûter à la relation, c'est-à-dire je vais goûter à l'amour de Dieu, l'amour que Dieu me porte, et l'amour que je porte à Dieu. Dieu, lui, me donne tout. Mais moi, j'ai du mal à me donner à lui. Parce que j'ai du mal à m'abandonner. J'ai du mal à laisser transformer les grâces que j'ai reçues. On reçoit beaucoup de grâces, mais en fin de compte, la grâce est un potentiel. Il va falloir la transformer. C'est Dieu qui va transformer mon cœur. Mais si je ne vais pas à lui, qui va me transformer? Moi, je ne peux pas. Humainement, ce n'est pas possible de me transformer. Mais par contre, il faut y aller. Il faut aller au rendez-vous. Et tous les jours, matin et soir.
Alors, on a coutume de dire, quand on parle de la prière, que c'est un chemin d'appauvrissement, parce que quand on parle de la prière comme vous en parlez, on peut avoir l'impression qu'à chaque fois qu'on se met en prière, on a une connexion avec Dieu, qu'on sent sa présence, qu'il nous parle, etc. Or, l'expérience de la prière est quand même tout autre et souvent aride, ce qui ne veut pas dire que Dieu ne parle pas au travers de cette aridité. Mais ça fait partie du programme, vous parlez de l'acceptation de la pauvreté, vous avez une expression pour ça. L'esprit opère un basculement fondamental, il fait passer de la confiance en soi à la confiance en Dieu. Expliquez-nous.
Ah ben oui, c'est cela. Mais parce que, en fait, vous savez, je reprends cette phrase que j'aime beaucoup là de Jean-Baptiste, quand il dit « il faut que moi je diminue pour que lui augmente, pour que lui croisse ». Mais pour pouvoir diminuer, je le disais à l'occasion de d'autres émissions, pour pouvoir diminuer, il faut d'abord exister. C'est-à-dire que tant que le moi n'est pas constitué, je vais pas pouvoir diminuer. Sinon, je vais me ratatiner. Le petit peu que j'ai de moi-même, si je l'écrase, je vais être une personnalité complètement écrasée. J'ai d'abord besoin d'avoir confiance en moi. Donc, de grandir, de me donner, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la psychologie du jour, c'est donner confiance aux gens. Et c'est pas banal. C'est aussi important d'affermir les gens pour qu'ils se constituent, qu'ils aient beaucoup plus confiance en la vie. Le problème, c'est que, sur le plan humain, c'est bien, mais on n'est pas sur Terre pour vivre uniquement sur le plan humain.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'économie de cette étape.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'on peut aussi avoir une vision assez janséniste de la vie spirituelle en se disant mortification, mort à soi-même, et puis...
Non, moi, je ne le partage pas du tout, ça. Je dis qu'il faut avoir d'abord faire ce qu'il faut pour avoir confiance en soi, et petit à petit, on va voir que la confiance en Dieu, ça va être l'effacement du moi. C'est-à-dire qu'à un moment, la confiance en soi, elle va devenir un obstacle. Parce que si je n'ai confiance qu'en moi, j'ai pas besoin du bon Dieu. Alors que là, justement, c'est dans la démarche de pauvreté, là, que vous évoquiez là tout à l'heure, dans la démarche de pauvreté, ça va être de passer le relais de moi au bon Dieu. Et j'aime beaucoup cette parole dans Hébreux 3:6 qui nous dit ceci. Retenons jusqu'à la fin la confiance et l'espérance. Mais ça, on est dans le spirituel. Là. Retenons jusqu'à la fin la confiance et l'espérance. Et en fin de compte, ce sont les mots qui m'ont beaucoup frappé, c'est jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de tenir jusqu'à la fin et on est confronté à notre pauvreté. Et c'est là que je dis, mais sans le Christ, mais comment vas-tu faire? C'est-à-dire que le Seigneur, lui, il vient me chercher dans ma pauvreté. Il est venu pour les pauvres, il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les malades. Pas pour les bien portants. Eh bien, le rendez-vous avec le bon Dieu, il ne peut se faire que dans la pauvreté. Mais il est patient.
Vous dites aussi que ce chemin passe forcément par des appauvrissements radicaux. Alors on imagine que si on emprunte le chemin que vous avez décrit au long de ces émissions, ça creuse, comme on dit quand même, hein. Il y a on fait face à des choses difficiles. On ne peut pas, en fait, quelque part, se laisser profondément transformer par la grâce et puis vivre quelque chose du miracle, des miracles qu'on contemple dans les évangiles sans ces appauvrissements radicaux.
Non, on ne peut pas, parce qu'il y a toujours, dès l'instant où je suis faible, j'ai envie d'être fort. On a un naturel d'être fort, parce qu'on a envie d'être debout, on a envie de se sentir bien, c'est tout ce qui fait l'objet de la psychologie du jour. Être bien dans sa peau, mais ça veut rien dire, être bien dans sa peau, il faut être bien dans l'âme, parce que je peux être bien dans ma peau, et puis mon âme, spirituellement, elle peut être complètement pauvre, complètement abîmée. Et je peux être abîmé, même psychiquement, et avoir une superbe âme sur le plan spirituel. Donc oui, c'est une question de choix, où est-ce que je me positionne. Et la radicalité, ça va être ça, ça va être de quitter le vieil homme, pour pouvoir m'engager de plus en plus sur cet homme nouveau que Dieu veut faire de moi par transformation successive. Vous voyez, c'est tout le combat qu'il va y avoir à l'intérieur de moi.
À propos de ce combat, vous avez cette phrase, vous reprenez le titre d'un film qui, je crois, au box-office est le plus gros carton de l'année passée, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Ouais. Vous dites, cette expression, en fait, c'est pas la question, en fait, que doivent poser les croyants. Pourtant, nombre d'entre nous certainement se posent cette question quand ils font face à un grand malheur. Racontez-nous.
Je raconte ce que j'entends en fin de compte, ce que j'ai tenu aussi moi aussi comme propos. Des fois, quand je pense à une personne là, qui était vraiment très très engagée dans un groupe de prière et puis bergère et qui était vraiment
ça veut dire responsable
responsable d'un groupe, une très très belle âme, une très belle personne, et un jour elle apprend par la logeuse de sa fille qui est à 400 km, à 500 km, elle apprend que sa fille est anorexique. Elle apprend que sa fille est anorexique, elle est choquée complètement, parce que la petite avait un goût de mourir, en fait. Hein. Elle était en danger, c'est pour ça que la logeuse l'appelle. Et vous rendez compte le traumatisme qu'il peut y avoir dans le cœur de cette femme, qui est archi-priante, mais qui tout d'un coup est rentrée dans un doute, elle a perdu la foi tout d'un coup, mais à quoi ça sert de prier pour en arriver là? Donc, et on en est tous là, dire mais attends, je prie, c'est comme si Seigneur, j'espère que tu m'entends, que tu vas me faire, que tu vas me répondre là où je te demande. Et là, la personne, elle est dans un inattendu qui a déstabilisé complètement d'ailleurs son épouse, et là, et qui m'appelle et qui est complètement déstabilisée parce que cette femme était sur le plan spirituel, elle était bergère même dans
pilier.
La famille. Elle était le pilier de la famille, la bergère de la famille. Et tout d'un coup, cet homme est démuni parce qu'il voit que sa femme bien apparemment, tout passagèrement, mais perd la foi. Et heureusement, un homme qui a très bien réagi, qui a été voir sa fille, ça s'est super bien passé. Elle était heureuse, cette petite, de voir le papa. Quand il est arrivé, il a dit, mais ça y est, c'est bon. Mais elle n'arrivait pas à le croire. Vous voyez, parce qu'elle était tellement affectée, elle me disait, mais c'est pas possible, ça nous arrive à nous, que ça m'arrive à moi. Mais ça arrive à chacun de nous, ça peut arriver, cela, vous voyez. Pour dire que même si on est engagé dans la prière et dans la foi, à un moment on peut être cassé. Et là on dit, mais à quoi ça sert ? Vous voyez,
Que j'ai fait au bon Dieu ?
Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Et c'est ce que le païen, il va dire ça.
Pas besoin d'avoir un époux qui vient d'Asie, un autre qui vient d'Afrique, et un autre qui vient, puisque c'est l'objet de ce film.
Absolument, oui.
Enfin, des gendres, pardon.
Oui, tout à fait. Mais on en est tous là.
Alors, vous dites aussi, et vous l'avez dit au long de ces émissions, mais plus que jamais, il faut le préciser dans cette émission donc sur la Terre promise, il faut consentir au combat spirituel, c'est-à-dire pas seulement rentrer dans le combat spirituel, mais consentir au combat spirituel. Quelle nuance vous faites entre accepter et consentir ? Consentir, j'ai compris dans ce que vous m'avez envoyé, c'est que il faut un peu rendre les armes pour se décider à les avoir toujours quelque part. C'est le combat spirituel, ça ne cesse jamais. Il y a une manière de choisir radicalement en fait d'entrer dans le combat.
Absolument. C'est-à-dire que la radicalité du combat spirituel, c'est de dire moi je ne peux pas combattre, mais Dieu peut combattre pour moi. C'est-à-dire je suis d'emblée, j'ai la certitude qu'il est vainqueur dans mon histoire à moi. Il a déjà, c'est pour ça que je parlais dans une autre émission de tout est accompli en moi. C'est-à-dire, si j'ai la certitude, au moment où, où Jésus sur la croix va mourir, et juste avant quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire que pour moi déjà tout est accompli, c'est-à-dire que le combat spirituel que je vais avoir à mener, Jésus l'a déjà traversé, il a déjà vaincu le mal. Donc c'est à moi à rentrer là-dedans, mais c'est vrai que pour pouvoir lâcher mon histoire, il va falloir que je lâche mes habitudes. C'est ça qui est le plus difficile.
Parce qu'on peut combattre à la force du poignet, c'est ça que j'entends.
On peut combattre à la force du poignet, et c'est pas le lieu du combat. Le lieu du combat, c'est ce que nous venons de dire juste avant, c'est dans la pauvreté. La pauvreté et l'abandon, c'est-à-dire moi je n'y peux rien, mais Dieu peut pour moi. Et donc là, on va évidemment demander au Seigneur de se battre pour moi, mais Dieu va me demander de coopérer. C'est-à-dire, je vais pas rester les bras ballants et dire, bon, mais il va le faire, il a déjà vaincu, et puis moi, je vais faire la sieste en attendant. Non. Le bon Dieu me demande de coopérer. C'est-à-dire que pour moi, coopérer, ça veut dire me laisser transformer me laisser transformer par la prière et par l'oraison. Moi, j'ai que ça à faire. Je vais dire, Seigneur, je crois. C'est ça la vertu de foi, c'est Seigneur, je crois en toi parce que tu es sauveur. Et je vis dans l'espérance de quelque chose que je n'ai pas encore, auquel j'ai pas accès, mais je sais que tout est déjà accompli. Elle est là, l'espérance. Déjà, le Christ a déjà fait en moi. Mais c'est Dieu qui va faire, il me dit, mais laisse-toi transformer. Vous voyez, c'est vraiment laisse-toi transformer, c'est continuer à pratiquer tes vertus, celles qui vont être le plus fondamentales, pour pouvoir être sûr que je vais pouvoir agir en toi. Bien sûr qu'il peut agir radicalement, mais la radicalité, elle n'est pas que de Dieu, elle est aussi de moi. Et c'est ça qui est important, sachant que dès l'instant où je suis dans le combat spirituel, combattre c'est contre qui ? Ben, je vais me combattre contre le malin qui, lui, veut m'empêcher d'être fils. Il veut me refuser le droit de choisir ce père du ciel. Donc lui, il est là pour me mettre dans le doute. Et à chaque fois, il va me faire des petits croche-pieds. Il passe par mon imaginaire. Il va passer par mes pensées, par mon imaginaire. Il va me faire rentrer dans les lieux de mes tentations pour chuter. Lui, il est content. C'est à moi d'être vigilant, alors on fait ce qu'on peut, c'est sûr. Moi, j'ai à être uniquement vigilant pour que Dieu puisse combattre à ma place et qu'il puisse combattre pour moi. Sinon c'est l'autre qui gagne. Faut-il résister à Dieu ou au diable ? Il vaut mieux résister au diable et se laisser faire par le bon Dieu.
On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour la dernière partie de cette dernière émission. Entrer dans la gratitude, vous dites que de développer un esprit de louange et d'apprendre à chasser tout esprit critique aussi de soi est une manière importante, là aussi quand c'est vécu de manière radicale, une grande manière de rentrer en terre promise. On fait une deuxième pause et on vous retrouve.
Une guêpe m'a piqué d'amour. Je suis couverte de toi depuis ton bonjour. Et j'ai eu beau gratter ma peau tous les jours de pas en haut, ça n'y fait rien. Comme la piqûre ne désenflait pas, je me suis mise à avoir peur de toi et moi. Mais l'amour est fait ainsi, on a beau désinfecter, ça n'y fait rien. Au secours, à l'aide, SOS, j'ai un insecte logé dans le cœur. Il s'agrippe à mes humeurs, me fait passer du rire aux pleurs, je n'en peux plus. Mayday, help me, sauvez-moi. Je ne suis pas vaccinée contre ça. J'ai essayé les lotions, les pommades et les infusions, ça n'y fait rien. Secours à l'aide, SOS. J'ai un insecte logé dans le cœur. Il s'agrippe à mes humeurs, me fait passer du rire aux pleurs, je n'en peux plus. Mayday, help me, sauvez-moi. Je ne suis pas vaccinée contre ça. J'ai essayé les lotions, les pommades et les infusions, ça n'y fait rien. Une guêpe t'a piqué d'amour. Tu es tout couvert de moi depuis mon bonjour. Et t'as eu beau gratter ta peau tous les jours de bas en haut, ça n'y fait rien. C'est drôle comme l'amour est contagieux.
Finalement, ce mal n'est pas si douloureux. Je ne suis plus allergique et puis c'est si bon d'être malade à deux. C'est drôle comme l'amour est contagieux. Finalement, ce mal n'est pas si douloureux. Je ne suis plus allergique et puis c'est si bon d'être malade à deux. Et puis c'est si bon d'être malade à deux. Et puis c'est si bon d'être malade à deux.
Présence sur le Causse 106.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Dieu peut-il guérir ? Dernière émission donc de notre série de carême pour ceux qui nous prendraient en cours de route avec Daniel Desbois, psychologue cofondateur des Agapés Retraites de Guérison Intérieure du Puy-en-Velay. Dans ce dernier volet de cette dernière émission, entrez donc dans la gratitude. Vous laissez entendre que, en fait, comme on aurait à choisir quand on est croyant, qu'on a mis sa confiance en Dieu, comme on aurait à choisir la prière, comme on aurait à choisir, pardon, le combat spirituel. On est tous les deux enroués ce matin. Et il faudrait aussi choisir la gratitude, chose que connaissent bien les communautés du renouveau charismatique, hein, qui vivent beaucoup de l'esprit de louange. Là aussi, qu'est-ce qui se joue, Daniel, dans ce choix de la gratitude, autre mot qu'on pourrait utiliser pour la louange, peut-être plus contemporain ou plus parlant, qui ressemblerait plus à ce qu'on peut lire dans des magazines de psychologie. Qu'est-ce qui se joue là-dedans et pourquoi est-ce que c'est important aussi de le choisir?
Alors la gratitude est fondamentale parce que ça va amener un esprit d'emballement dans la joie. Quand on est sur la terre promise, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer vraiment dans cette certitude que Dieu est là, il s'occupe de moi, et ça c'est ma joie. Alors la gratitude, ça veut dire, bon, ben, si tu es dans la joie, je pense au pape François qui disait, j'avais entendu à l'occasion d'un interview, il dit, mais moi je demande l'humour tous les jours. C'est-à-dire que il nous invite à être dans la joie, mais tu es chrétien, mais sois dans la joie, même si tu chutes, même si tu souffres, il y a des périodes où on souffre, c'est normal, mais le final c'est toujours la joie, puisque Jésus est vainqueur, puisque la résurrection est là, je ne vais pas mourir sur la croix éternellement, le Seigneur est là pour me dire, je suis déjà passé, viens avec moi. Et l'esprit de gratitude est beau, parce que pour moi la joie c'est le baromètre de l'amour, c'est-à-dire qu'une personne qui est dans la joie, nécessairement elle est animée par l'amour. On peut pas faire semblant d'être heureux, c'est pas possible. Alors on peut avoir des joies éphémères, mais c'est un passage. On peut avoir des joies éphémères, le problème c'est d'en rester là. Nous ce que l'on recherche c'est la joie en Dieu. C'est-à-dire je veux absorber, m'imprégner de la joie que le Seigneur a de me sauver, de me sortir de là et de croire qu'avec lui je vais pouvoir accéder au Père. Le propre de la gratitude c'est de répondre à la parole d'Évangile quand il nous dit, c'est Jésus qui dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça c'est fondamental de savoir qu'on reçoit gratuitement. Et je rigole quand je suis en voiture, par exemple, je suis en voiture, et puis on est à la queue leu-leu, et bien il y a quelqu'un qui veut s'infiltrer et qui veut prendre, il voudrait bien passer. Et je me rends compte que si je laisse passer la personne, il me remercie, je sais qu'il est content puisqu'il a pris la place. Et une minute après, il va faire pareil pour quelqu'un d'autre, il va laisser passer. Il y a une espèce de courtoisie, la joie entraîne la joie. Et il y a donc une boucle de la joie. Tu reçois gratuitement de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dans la mesure où je reçois gratuitement de Dieu, je suis dans la joie. Quand je suis dans la joie de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je vais apprendre à remercier. C'est ça la louange. Je vais apprendre à remercier. Et dès l'instant où je remercie Dieu et je suis dans la joie, je vais avoir envie de servir et de donner gratuitement. Le problème, c'est quand cette boucle, parce que là, après ça tourne en boucle, hein. Le problème, c'est que si je coupe cette boucle, c'est-à-dire Dieu donne gratuitement, moi je reçois, je suis dans la joie, je donne gratuitement et je suis à nouveau dans la joie. Vous voyez, il y a tout un emballement. Si c'est coupé quelque part, je vous donne un exemple très simple. Je vois les personnes qui ont du mal à s'aimer, qui peuvent être au service de l'Église, qui peuvent beaucoup donner et qui ne s'aiment pas, ou très peu. Dans la mesure où ces personnes ne peuvent pas recevoir gratuitement l'amour de Dieu, elles auront du mal à être dans la joie, en vérité. Elles auront du mal à être en joie, ce qui veut dire qu'il faut aller en amont. travailler sur apprends à te laisser aimer. Tu verras que tu vas découvrir la joie. Là, tu seras en vérité. Là, tu pourras te donner. Mais vous voyez, cette joie, elle est, disons qu'elle nous tombe dessus par grâce. Et je vois, je me permets de vous dire, quand nous, on a été convertis, comme tous les jeunes convertis, on a le feu. Je peux vous dire qu'on a le feu. Hein.
Et la joie.
On a la joie et on a envie de la donner.
Vous citez aussi le pape Jean XXIII, à qui on demandait, donc qui était connu pour sa bonhomie et son humour. Pourtant, Dieu sait si lancer un concile devait être sujet de préoccupation. Et quand on lui demandait pourquoi est-ce qu'il était toujours de bonne humeur comme ça, détendu et jovial, il répondait, quand on lui posait cette question, qu'est-ce qui fait que vous êtes si bon? Il répondait, parce que je m'aime. Il y a une autre vertu à la joie aussi, c'est d'apprendre à vivre en étant décentré de soi-même. Pour vous, c'est important de le préciser.
Ah ben oui, parce que c'est important d'être décentré de soi-même, parce que si je suis centré sur moi, je ne pourrai pas donner gratuitement à l'autre. Je vais m'occuper de moi, mais je ne vais pas m'occuper de l'autre. Et là, c'est un petit peu gênant, dans la mesure où je vous dis que l'esprit de gratitude rend l'homme, en fin de compte, heureux. Pour moi, c'est fondamental. L'esprit de gratitude rend l'homme complètement heureux. Dès l'instant où je suis heureux, quelle que soit l'expérience qui m'arrive, je ne connais pas l'échec. Moi, je trouve ça que c'est absolument qu'une personne qui est heureuse, même si une expérience sur laquelle elle attendait des résultats, même si son expérience est manquée, pour elle, c'est une occasion de grandir. Pour elle, c'est une occasion encore d'être dans une situation de progrès. Je trouve ça formidable. Quand je suis heureux, je ne connais pas l'échec. Ce qui veut dire que quand je suis malheureux, je vais vite le connaître. Vous savez la grande différence qu'il y a entre un optimiste et un pessimiste? Je les écoute. Je vais écouter un pessimiste. Je vais l'écouter, mais je vais dire à la fin, mais il a raison dans ce qu'il me dit. Je vais écouter un optimiste. Il va me développer ce qu'il a à me dire. Je vais dire, mais il a raison. Mais quelle est la différence entre les deux? C'est que dans les deux, il n'y en a qu'un seul qui est heureux. Il n'y en a qu'un seul qui porte la joie.
L'autre chose sur laquelle vous y insistez, c'est que, en même temps que donc cet esprit de gratitude qu'il faudrait contribuer à développer profondément pour aussi se décider pour la joie, hein, c'est ce qu'on entend derrière, oui. Et apprendre à la recevoir, c'est s'interdire tout esprit critique. Alors là, j'avoue que j'ai été surpris. Non pas que ça soit pas évidemment quelque chose qu'on imagine être important, mais je me suis dit qu'est-ce que ça vient faire ici, expliquez-nous, s'interdire toute critique, pourquoi est-ce que c'est la bonne manière de rentrer en terre promise?
Parce que je me rends compte que la critique c'est vraiment un poison de l'âme, c'est vraiment la critique d'un poison de l'âme, parce que quelqu'un qui critique l'autre, c'est nécessairement qu'il se place au-dessus de l'autre, et Saint Paul qui nous dit considérer les autres toujours supérieurs à vous-même. Ben, vous savez, considérer l'autre toujours supérieur à soi-même, c'est une opération qui est pas évidente. Hein. Mais je veux dire que la critique, c'est non seulement un poison pour l'âme, mais c'est aussi un obscurcissement de l'âme. C'est-à-dire que quand je suis dans la critique, je vois bien la paille chez l'autre, dans l'œil de l'autre, mais je vois pas la poutre. Alors on dit oui, mais la critique, on la pratique. On la pratique même, il suffit d'une parole de trop. Demander la grâce. Quand je sais que j'ai un esprit critique, et des fois il y a des personnes qui me disent, mais c'est vrai que moi j'ai la critique facile. Je dis, mais c'est pas grave. Demandez au Seigneur qu'il vous dérange, qu'il vous trouble lorsque vous serez dans cette situation. Alors, c'est ce qu'il y a de beau, c'est là qu'on va toucher le péché, hein, d'ailleurs aussi. Hein. C'est que la personne, quand elle est critique, et qu'elle est vraiment dans ce désir de changer, elle se rend compte 2 heures après, ah, ce que j'ai dit, c'était pas bien. Ce que j'ai fait là, c'était pas bien. C'est pas grave, elle va demander pardon ou elle demande, elle va au sacrement de réconciliation. Puis si c'est 1 heure après, la critique, ça sera 1 quart d'heure après qu'elle va s'en rendre compte. Puis c'est au moment où elle le dit et ça la dérange. Et puis c'est un moment où elle va anticiper et elle va se taire. Donc vous voyez là.
Et de développer son esprit critique, Daniel Desbois, c'est aussi important. C'est une manière de.
Bah si c'est une critique.
D'apprendre à être libre aussi.
C'est... Oui, mais si c'est une critique par rapport à soi, il y a aucun problème. C'est-à-dire quand je vais remettre en cause, mais je vais avoir cet esprit critique par rapport à moi, remettre en cause mes manières d'être et de faire. Dites-vous bien que la critique, en soi, elle n'est pas dérangeante. Il suffit d'en avoir conscience que c'est un poison, parce qu'elle va être source de conversion. C'est ça qui est important, elle va être source de conversion. Et là, je vais demander au Seigneur, parce qu'à chaque fois, il faut le savoir, qu'à chaque fois que je vais avoir un esprit critique, je vais percer le cœur de Dieu. Alors attends, tu es chrétien, sache comment tu perces le cœur de Dieu. Eh bien, tu le perces par la critique. Dans la mesure où je vais souffrir, parce que je le sais maintenant, et je vais demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi souffrir quand je te fais souffrir par mon esprit critique. Je peux vous dire que là, il y a des progrès qui sont absolument extraordinaires, parce que la personne, elle n'a pas envie de faire du mal.
Vous dites aussi qu'il ne faut pas suspecter l'autre dans ses intentions. Ça, c'est très important, j'imagine, de le préciser.
Ben oui, l'esprit critique, c'est ça, c'est qu'il... On peut avoir un esprit d'anticiper le mal au lieu d'anticiper le bien. C'est l'histoire de, est-ce que tu vois dans une situation le verre à moitié vide ou à moitié plein? Il y a ceux qui le voient sans cesse à moitié vide. Mais là, il va y avoir un esprit critique parce qu'ils vont attribuer à l'autre quelque chose qui n'est peut-être pas dans son esprit. Et ça, c'est malsain. Donc, vous voyez, cette intention que j'attribue à l'autre, si elle est bonne, ben tant mieux. Mais c'est si elle n'est pas bonne. C'est, voilà. C'est regrettable, quoi.
Pour finir, vous dites qu'il faut, il faut savoir demander la grâce de l'humilité. Alors, on imagine que ça va, en fait, avec cet esprit de louange et cette absence de critique, parce que de ne pas se mettre au-dessus des autres et d'être constamment en situation de recevoir, c'est là le fruit de l'humilité. On dit que l'humilité, c'est évidemment la ligne droite vers Dieu.
Ah oui, oui. L'humilité, c'est vraiment le... pour moi, je dis que c'est le nerf de la guerre, hein, contre l'esprit d'orgueil, contre l'orgueil. Parce que bon, l'humilité et l'orgueil, ce sont le péché et la vertu. Hein. Donc c'est vraiment... Je me rends compte que on peut être en terre promise, on peut faire tout ce qu'on veut pour que les vertus qui sont en lien avec mon péché capital, les vertus que je vais essayer de vivre, de mettre en application, et je sens mon progrès, je me rends compte que ça va. Mais derrière, il y a cet orgueil qui est toujours là, qui est toujours là à me titiller, parce qu'à un moment, je vais avoir la parole de trop, je vais avoir la phrase de trop, je vais avoir le ressenti de trop. Et il y a, quelque part derrière l'orgueil, on porte tous, plus ou moins, bien sûr, ce désir de supériorité, cette vanité qui nous habite, parce qu'on a tous besoin d'être reconnus par les autres, d'avoir une certaine renommée, d'avoir des honneurs. On est en recherche de gloire. Mais ce qui est à glorifier, c'est pas moi. Celui qui est à glorifier, c'est Dieu. Et ce passage-là, de me défaire de ce besoin d'être reconnu par... Mais tu vas être reconnu que par Dieu. Et on a du mal. On a besoin d'être reconnu, d'être confirmé, d'être valorisé, d'être vu. Et c'est ça qui va tuer sur le chemin spirituel. Notre vie spirituelle, elle est rongée par notre orgueil. Et là, on est tous concernés. Ouais.
Eh ben merci beaucoup, un très grand merci au nom aussi des auditeurs, parce que je crois que cette série d'émissions a été suivie et appréciée, Daniel Desbois. Pour finir, deux, trois informations. Je vous avais demandé de venir avec quelques pistes de livres. Vous m'en avez donné trois. Les péchés, que peut-on en dire, de Xavier Thévenot, paru aux éditions Salvator. Les péchés, que peut-on en dire, Xavier Thévenot, édition Salvator. Le pape François, Amoris Laetitia, vous parlez donc du quatrième chapitre qui est sur les vertus. Hein, donc Amoris Laetitia, dont cette exhortation apostolique sur la famille. Amoris Laetitia, quatrième chapitre. Et puis ce livre qu'on a déjà cité, qui a été, vous m'aviez dit, envoyé à tous les évêques de France, de François Buet, de la libération à la vie dans l'esprit, paru aux éditions Nouvelle Cité, qui est donc l'aumônier accompagnateur de ces retraites de guérison. François Buet, de la libération à la vie dans l'esprit, paru aux éditions Nouvelle Cité. Et puis évidemment, on peut appeler les retraites de guérison Agapé du Puy-en-Velay, au Puy-en-Velay, se débrouiller pour trouver le numéro de téléphone. Si par hasard vous n'avez pas internet chez vous, et ben vous appelez la radio et donc allez faire une retraite de guérison. Merci beaucoup Daniel Desbois, un grand merci à vous, et je finis cette émission et cette série en vous disant que dès ce matin vous pouvez donc appeler la radio au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 pour commander le coffret des 5 émissions de cette grande série de Carême. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Rémi Souloumiac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.